Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Ground Control près de la gare de Lyon à Paris pour un masque et la plume dédié ce soir à notre cher Daniel Eman avec toute la bande des orphelins représentée ce soir par Pierre Murat de Télérama.fr, Eric Neuhoff du Figaro, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et votre serviteur Charlotte Lipinska de Vanity Fair est malheureusement malade et nous demande et vous demande de bien vouloir l'excuser. On parlera ce soir des films de Quentin Tarantino, Ivan Cavana, Kantemir Balagov, Ronan Lepage, Erwan Leduc, Paolo Virzi, mais après avoir une dernière fois rendu hommage à notre cher Daniel qui s'est éteinte le 25 juillet dernier et que nous avons tous accompagné le 31 au Père Lachaise. Daniel qui, malgré la maladie, a tenu à enregistrer un ultime masque à la plume et dont la voix vibrait encore. C'était le dimanche 7 juillet. Elle parlait de Yves de Benoît Forgeard.
Effectivement, il y a un sujet et il y a un personnage. Effectivement, faire un personnage vivant, parlant, commandant ou faisant les repas, etc., d'un réfrigérateur, ça n'est pas une mauvaise idée, franchement. Donc, on est un petit peu saisi que ça n'aille pas plus loin, plus profond, plus cruel aussi. Il faut quand même dire que ce frigo, en dehors de faire les repas et de se mêler des affaires sentimentales de son maître, est quand même celui qui fait le tube qui va de nouveau le lancer comme rappeur. Et je peux vous en donner le titre. Carrément, rien n'a branlé. On peut considérer que, effectivement, on peut dire ça du film, mais je serai un peu plus indulgente.
Depuis la disparition de Daniel, de cette critique affective, généreuse, passionnelle, qui a brillé pendant 30 ans à cette tribune et dont la carrière journalistique passa par l'Express, Le Monde, Marianne et le magazine en ligne Bande à part, les centaines de mails et autant de larmes d'auditeurs n'en finissent pas de pleuvoir avec les nôtres. Et je voudrais ce soir, ma chère Daniel, te donner à entendre quelques extraits du volumineux courrier que je reçois depuis 3 semaines. Ils disent très bien qui tu étais, qui tu es. Daniel, écrit Laurence Pradoura, mettait les films à la portée de chacun. Elle aura contribué, assure Rémi Cordier de Sceaux, à transformer des générations de spectateurs en cinéphiles. Elle nous manque déjà. J'aimais, dit Dominique Tardif, son humour et sa bienveillance. Bernard Barvire est épaté de la vivacité d'esprit et de la curiosité qu'elle aura conservée jusqu'au bout et reconnaissant au masque de ne pas estimer que ses chroniqueurs sont périmés après 60 ans. C'était pour Servane Mazurel de Loris, notre maman à tous, celle dont la voix pétulante n'était pas en accord avec son âge. Nous sommes tous orphelins, ajoute Sylvie de Courcelles. Je pense à cette famille tellement formidable de nos dimanches soirs qu'elle illuminait. Christophe Vatel se souvient de la sortie de Titanic. A priori, je pensais que c'était une grosse daube. Mais Daniel a dit « c'est magnifique » avec sa voix chaleureuse et j'y suis allé et c'était magnifique. Vous allez me manquer, Daniel. Jean-François Deslandes de Rennes, je me souviens d'une émission vers 2010 où Michel Simon parlait d'un film sud-coréen dont le titre original signifiait « mouche à merde ». Et Daniel Eman d'ajouter « la prochaine fois, je demanderai à la caissière du cinéma de mouche à merde, s'il vous plaît ». Et elle éclata de rire. Mathieu Desbordes, qui habite Nantes et qui a 17 ans, ta bande de critiques, mais tout particulièrement Daniel, a été une porte ouverte pour moi vers la découverte du cinéma contemporain avec elle j'ai appris à développer mon sens critique. Nicolas, Je n'ai jamais fait que l'entendre à la radio et je lui donnais 20 ans de moins. Elle était si passionnée que jamais je ne l'aurais cru aussi âgée. La magie du cinéma, sûrement. Olivier Gault est stupéfait, je la croyais cadra. Longue vie à votre émission. Marin Larmagnac. Daniel était l'antithèse de la vieillesse, le contraire de l'âge qui fait plier. Elle écoutait, je me sentais léger, fin, joyeux. Cet amour du cinéma, elle a réussi à me le transmettre par ses mots simples et profonds, ou Jean-Jacques Corsacissoc, qui nous dit « Permettez-moi de vous embrasser, madame. Je vous dis merci et soyez en paix. Vous avez fait œuvre et une belle œuvre. » Un fidèle auditeur, Didier Petit, se souvient qu'au masque, le 7 juillet dernier, à quelques minutes de la fin de l'émission, le dernier mot de Daniel fut « formidable ». Peu importe de quoi elle nous parlait, ce dernier mot est un beau mot. Oui, madame, vous étiez vous aussi formidable. Les masqués et les plumés vous embrassent au-delà de ce que vous pouviez sans doute espérer. Laurence Murphy, qui habite la Pennsylvanie aux États-Unis, chers masqués et plumés, vous faites tous partie de ma vie. Je suis triste en pensant à Daniel, dont la vitalité, l'humour, la verve contribuent à faire de votre émission ce qu'elle est tout simplement. À travers son amour du cinéma, écrit Bernard Velay de Paris, Daniel nous a communiqué tout simplement son amour de la vie. Je suis triste, j'ai les larmes aux yeux, nous écrit Marie-Josée Séry-Mercier de Saint-André-des-Eaux. Je pense à toi, mon masque. Mais je suis sûr, annonce Véronique Sébatini, qu'elle va continuer à écouter le masque et la plume, trépignant de ne pouvoir vous répondre, vous interrompre pour donner son avis. Et je laisse la conclusion parce que le courrier et de ce soir est forcément partiel. À l'ami Jean-Louis Hésine, une grosse pensée et des larmes pour Daniel, que j'adorais. Quelle belle personne. Voilà, Daniel aurait voulu qu'on parle ce soir. Excusez mon émotion. Mais elle aurait voulu qu'on parle ce soir des films de la quinzaine. Nous allons donc nous y employer. Mais avant, dites-moi, vous, les critiques, ses amis, un beau souvenir que vous gardez d'elle, Pierre.
Ben, moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle, alors pas au Monde et à l'Express, mais dans des bouquins, une série de bouquins qui s'appelle « L'année du cinéma » chez Kalman Lévy. Donc on se réunissait très souvent et je lui apportais des papiers. Et moi, je me souviens surtout de la façon dont elle les relisait, parce qu'elle avait une façon très particulière de les relire. C'est-à-dire qu'elle commençait par me dire « Alors, mon chéri, ton papier, il est absolument... Mais alors, génial. Mais vraiment, j'aurais pas fait mieux. Quel bonheur te lire. Extraordinaire. » Alors, la petite chose, simplement, c'est que la phrase numéro 1, elle est un peu en trop. La phrase 4, tu vois, moi, je la mettrais en conclusion parce que c'est une très belle conclusion. Et puis alors, au milieu, tu patines un petit peu. Mais c'est absolument formidable. Et on travaillait comme ça. C'était absolument génial parce qu'elle m'apprenait, évidemment, beaucoup. Et les derniers temps... quand j'avais, je sais pas, un souci à mon journal ou quelque chose qui me contrariait, j'avais pris l'habitude de lui passer un coup de fil et elle me donnait toujours des conseils à la fois avisés et humoristiques. Et on riait beaucoup. Donc pour moi, c'était une complice.
Eric.
Ben, je me souviens de la première fois où j'ai vu Daniel, que je ne connaissais pas à l'époque. C'était sur le tournage du Pas suspendu de la cigogne d'Angelopoulos. Dans un village perdu au nord de la Grèce, avec de la gadoue partout, de la neige fondue. Et Daniel était là, dans cet hôtel à la fois moderne et déprimant, où dans les chambres, il y avait juste un plafonnier qui avait l'air d'être fabriqué par des élèves en travail manuel. Et elle interviewait Jeanne Moreau, et moi, j'étais censé rencontrer Marcello Mastroianni. Et je me souviens que le tournage était interrompu parce que dans ce petit village, il y avait un pop cinglé qui diffusait des chants religieux dans son clocher à fond. Et donc, ça gênait le tournage. Et Mastroianni disait, mais je comprends pas, il y a qu'à faire comme si dans ce village, il y avait un pop fou qui passait des chants religieux à fond. Et j'observais Daniel avec son petit carnet, son petit stylo. Et au retour, j'ai lu son papier et je dois avouer qu'il était bien meilleur que le mien. Et elle n'a sans doute eu qu'un regret dans la vie, c'est de ne pas avoir vu le dernier Woody Allen. Mais je suis sûr que là-haut, quelqu'un va t'organiser une projection et tu verras, il est très bien ce film, Daniel.
Xavier,
Moi, le souvenir que j'ai de Daniel, il est lié au masque. C'est un soir dans la voiture, on rentrait de la maison de campagne de mes parents. J'écoutais le masque qui était le masque consacré au Festival de Cannes. Alors évidemment, j'avais le transistor collé à mon oreille. Et à un moment, Daniel, que j'adorais lire, commet l'irréparable, a dit « Oui, mais quand même, au bout de 15 jours, à Cannes, on est fatigué. » Et je crois avoir hurlé « Mais laisse ta place, connasse !» Voilà. Si t'es pas content, t'as qu'à laisser sa place. Moi, je rêvais de Cannes, bien évidemment. Alors après, Daniel est devenu une collègue, une figure lointaine, puis une collègue du masque, puis une amie. Et un jour, j'ai eu le courage de lui raconter cette anecdote. Je lui ai dit, tu sais, je t'ai traité de connasse à travers le poste parce que tu te plaignais de ces 15 jours harassants à Cannes. Et elle a explosé de ce rire absolument magnifique qui n'appartenait qu'à elle. Et elle m'a dit, mais tu as bien fait de me traiter de connasse parce qu'effectivement, je l'avais été. Voilà, donc c'est le souvenir que je garderai au milieu de plein d'autres.
Et on peut vous dire, Xavier et moi, qu'elle a toute fin de sa vie à l'hôpital. Elle s'inquiétait de savoir ce que seraient les films qu'on inscrirait au masque. Et elle espérait bien participer à l'émission de cette fin du mois d'août. Merci Daniel, on t'aime. On lui avait prédit une deuxième Palme d'Or et il est reparti bredouille. Quentin Tarantino y présentait Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood, film de 2h42, plein de digressions et de flashbacks avec, vous le savez, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie en Sharon Tate et Al Pacino en producteur très convaincant de Western Spaghetti pour raconter le Los Angeles d'il y a 50 ans. En 69, et le meurtre le 9 août de Sharon Tate, l'épouse enceinte de Polanski, par la secte hippie et sataniste de Charles Manson. Tarantino invente donc deux personnages voisins du couple Sharon Tate-Polanski, c'est-à-dire Rick Dalton, c'est Caprio, acteur déclinant abonné au rôle de méchant dans les séries télé, et puis sa doublure, le cascadeur Cliff Booth, qui est joué par Brad Pitt, soupçonné d'avoir tué sa propre femme. Et les deux vont assister impuissants à la métamorphose d'Hollywood et essayer de relancer leur carrière. Alors Tarantino, je le dis en me tournant évidemment vers Pierre Murat, l'a dit à Cannes, il l'a répété, il ne faut rien dire de la dernière demi-heure qui réserve quelques surprises.
C'est très embêtant. Mais enfin...
Même si on a le droit, toi comme moi, de la trouver de très mauvais goût, toujours est-il qu'il ne faut pas le dire. Donc, raconte-nous, Pierre, à la fin.
Dévoue-toi.
Ah ben, moi, je trouve que ce film est moralement, mais immonde. Mais immonde. Voilà, je trouve ça immonde. Je ne peux pas vous dire pourquoi, si ce n'est que vous êtes fan de Tarantino, donc vous avez vu d'autres films de lui, et il avait déjà utilisé un procédé à peu près analogue dans un autre film, qui passait, parce que c'était tellement énorme, c'était tellement romanesque et en même temps ironique, que ça pouvait passer. Là, je trouve ça, mais infect. Ce qu'il a fait dans cette dernière demi-heure est infect. Qui plus est, moi j'ai vraiment défendu le type jusqu'à ce que même les gens avaient commencé à l'attaquer, je crois même à ce micro, j'avais vraiment défendu les 8 salopards, parce que je trouvais que, indépendamment des clichetons, mais c'était le style de Tarantino, on retrouvait son univers habituel dans ce film-là. Là, je trouve ça très lent. Très long. Il y a, par exemple, une scène, ça on peut le dire tout de même, où Sharon Tate passe devant un cinéma, un Matt Helms.
Enfin, Sharon Tate, Margot Robbie.
Margot Robbie, qui interprète Sharon Tate, voit un film dans lequel Sharon Tate jouait. C'est le retour de Matt Helms, qui est un de ces navets gentils que moi et Tarantino apprécions beaucoup. Et il montre Sharon Tate entrant dans la salle, se pâmant à son interprétation, rigolant, mais d'abord, outre que c'est bête, mais comment se permet-il ça? C'est absolument dégueulasse. Voilà.
Eric.
Ah, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Non, parce que c'est un conte de fées, le titre le dit suffisamment. Once Upon a Time, c'est Il était une fois. Et Tarantino, qui est un type bas de plafond, comme il l'a prouvé dans les trois derniers films, là, on le retrouve...
Le dernier était terrible, hein. Le western,
mais même Inglourious Basterds.
Ah non, ça se discute plus.
Ouais, enfin. Mais là, on le retrouve avec, en plus, celui qu'on aimait, avec une gravité assez nouvelle. C'est peut-être l'effet de l'âge, mais peut-être que moralement, ce qu'il fait est condamnable, mais c'est du cinéma. Moi, je me fous de savoir ce qui se passe dans la tête de Pierre Murat ou de Tarantino. Moi, ce qui compte, c'est ce qui est sur l'écran. Alors,
tu devrais.
La fille de Bruce Lee n'est pas contente, mais la sœur de Sharon Tate est ravie. Donc, tu vois, il n'y a pas mort d'homme, si on peut dire. Et il raconte...
C'est pas le terme que je choisirais, là, pour
il raconte son Hollywood à lui, un Hollywood qu'il n'a pas connu, puisque l'été 69, il avait 6 ans, Tarantino. Et comme tous les artistes, c'est quelqu'un qui a la nostalgie d'une époque qu'il n'a pas vécue, qu'il réinvente complètement, effectivement, avec les moquettes oranges, les cols pelle à tarte, les pantalons pas de def, les Cadillacs avec des pare-chocs, chromes rutilants. Ce Los Angeles qui le passionne, et moi je trouve que la scène où Margot Robbie va voir son film est absolument merveilleuse. Mais voit la fin de l'innocence, là, cette fille qui est aux anges en train de regarder sa prestation, et il y a un effet de miroir, parce que dans la salle, c'est Margot Robbie qui joue Sharon Tate, et à l'écran, c'est la vraie Sharon Tate.
Mais c'est débile.
Mais non, c'est pas débile. C'est beau. Enfin... C'est l'amour du cinéma. Et plane sur tout ça l'ombre de la famille Manson. On entend parler d'un certain Charlie quand Brad Pitt, qui est magnifique, qui forme un duo avec DiCaprio, qui est aussi épatant que ce que faisait Redford et Paul Newman dans Butch.
Pour ce qui est de la vérité historique, tu trouves pas que la fin est...
Moi, je trouve ça assez
tendancieuse et de mauvais goût.
C'est un peu de mauvais goût, mais Tarantino, c'est quand même pas un Proustien, hein, on le sait. Mais non, moi, je trouve assez jubilatoire. Et puis, c'est un film assez profond. Le film est beau. C'est un film sur l'amitié, sur les rêves déchus et sur un Hollywood qui n'existe plus, qui n'a peut-être jamais existé. Et on peut voir en parallèle, avant ce basculement qui va déclencher la fin des studios, la situation de Tarantino aujourd'hui, qui, dans l'industrie américaine, réussit malgré tout à se dresser comme un menhir sur la lande, à être un auteur, même s'il est discutable, et transparaît tellement dans les images son amour du cinéma, son côté gamin, sale gosse et passionné, je trouve le film magnifique et émouvant.
Alors Xavier, tu te situes où entre ces deux-là ?
Alors bizarrement, je vais emprunter un tout petit extrait de la critique d'Eric, parce que moi je trouve la scène effectivement où Margot Robbie qui joue Sharon Tate dans la salle de cinéma et entendant les rires des spectateurs autour d'elle, rassurée quelque part de ce jeu médiocre quand même qui était le sien, il y a une scène qui est absolument bouleversante parce que derrière l'humour, il y a de la mélancolie. Après, je suis totalement d'accord avec Pierre. Je trouve que c'est un auteur surestimé, c'est un auteur très discutable sur le plan idéologique parce que la fin qu'on ne racontera pas, elle s'accompagne aussi d'un prosélytisme du port d'armes à la maison qui est très Donald Trumpien, on le sait et on ne le dit pas assez. Tarantino, c'est quand même un cinéaste un peu de droite, un peu d'extrême droite de temps en temps. Il est pour l'exécution capitale, il est pour le fait de tirer sur la personne qui rentre chez lui avant même
de savoir ce qui se passe.
Ah oui, il l'a dit régulièrement. Ce qu'il fait de Bruce Lee est extrêmement douteux et totalement...
C'est rigolo inutile. Comme tout.
Non, c'est pas rigolo c'est du pas tout. Rigolo. Il fait passer Bruce Lee pour un imbécile demeuré qui se prend une tannée de la part du cascadeur qui est joué par Brad Pitt. Brad Pitt qui lui-même a dit dans les interviews « Oh, je suis venu au secours de Bruce Lee parce que je trouvais quand même que la charge était lourde. Alors j'ai demandé à Tarantino que la scène soit moins longue que prévu. »
Mais crétin au dernier degré.
Alors on a tout Tarantino, les pieds sales des jeunes filles au premier plan. Ça est très fétichiste des pieds, on finira par le savoir. Mais sauf qu'elles ont toujours des pieds absolument dégueulasses, donc c'est pas non plus très révérencieux pour les demoiselles. Et puis il y a quand même un vrai problème, c'est qu'il est là en train de nous dire « Ah là là, Hollywood n'est plus, Los Angeles n'est plus, où sont les néons, où sont ces lumières qui apparaissait à l'obscurité. Où est ce grand cinéma ? Mais bonhomme, tu fais du cinéma copier-coller depuis le début. Tous tes films depuis le premier sont vraiment des extraits, mais faits à l'identique par rapport aux originaux. Alors, il a fait City on Fire, qui est un film de
Hong Kong. T'en sauves aucun, Xavier ?
Ah, je n'en sauve aucun. Je trouve qu'à chaque fois, il fait les mêmes scènes à l'identique et il est très fier de lui, sans les réinventer. Bon, vous me dites qu'il réinvente quelque chose, il les plaque, il les réplique.
Non, mais Reservoir Dogs, il y avait de l'invention, Xavier.
Mais c'était City on Fire, le film d'origine, il avait de la chance.
Non, c'était autre chose.
Mais depuis le début, c'est tout
là,
le temps
il rend un hommage au western italien mauvais, que tout le monde sait mauvais, parce que le western italien sorti de 2-3 Sergio Leone et 1 ou 2 Sergio Solima, peut-être à la rigueur, c'est quand même une suite de navets. Et pendant 3 quarts d'heure, on est obligé de se taper Leonardo DiCaprio, qui, de façon la plus lente, est exaspérant dans le rôle, tout ça pour qu'une gamine vienne lui dire « Oh, t'as été magnifique, c'est la plus belle interprétation de ta vie. » Mais on n'en a rien à cirer.
Mais attends, on était d'accord. Tu m'as interrompu pour une fois, on était d'accord.
Là ils sont d'accord. Les deux sont d'accord.
Habituellement, tu m'interromps pour me dire que j'ai rien compris et que je ferais bien changer de métier. Là, on est d'accord. Sauf que pour moi, le génie Tarantino, il n'existe pas. S'il s'agit de refaire les mêmes scènes à l'identique, avec les mêmes cadres, les mêmes plans, les mêmes dialogues, je peux te le faire demain. Je ne sauverai qu'une chose, c'est que dans les 9 films qu'il fait diffuser dans le monde entier actuellement comme étant les influences directes de Once Upon a Time et Hollywood, il y a Model Shop, de Jacques Demy. Il n'y a rien compris, il n'a pas compris la grâce de Demy, mais au moins grâce à lui, ce film superbe est diffusé dans les quatre coins du monde, y compris à Hong Kong.
C'est vrai qu'on pense beaucoup à Demy en voyant ça.
Ah ben c'est lui qui y pense.
Hein. Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public ici rassemblé? Non, non. Eh bien, tant pis. Une grande fille de Kantemir Balagov avec Edmois Pierrot, Victoria Miroshnichenko.
C'est bien.
Je suis bon.
C'est bon.
Qui joue Ia et Vasilia Periligina.
C'est presque ça.
Presque ça. Masha Balagov, je le rappelle, le jeune cinéaste de 28 ans à qui on doit l'impressionnant Test Nota, Une vie à l'étroit et ce deuxième film qui dure quand même 2h17, se déroule à Leningrad à l'automne de 1945. La ville est en ruine, fantomatique. Deux infirmières d'un hôpital militaire qui soignent les blessés et qui sont elles-mêmes sacrément blessées de l'intérieur tentent de s'y reconstruire. L'une, Ia, donc Taï Girafe, la grande fille du titre, est en proie à des crises troublantes que je n'arrive pas vraiment du point de vue médical à définir. Je ne sais pas si vous avez réussi les uns ou les autres. C'est compliqué.
De tétanie crispée.
Oui, c'est ça.
Tétanie, c'est pas que ça, à mon avis.
Enfin, voilà.
Cacatanie.
Catatonie. C'est-à-dire qu'elle fait.
Je vous rappelle que Xavier est un ancien médecin.
Et elle bouge pas.
Quand même, hein.
Voilà.
L'autre, Macha, a perdu un fils et en voudrait un autre. Le film est lent, très oppressant, couleur un peu color rouille, je trouve. Enfin, en tout cas, éclairé parfois comme un tableau hollandais. Il a reçu le prix de la mise en scène. Dans la section Un certain regard à Cannes. Je parlais de la lenteur, on peut la trouver un tout petit peu excessive, mais ça n'est que mon jugement. Éric.
Je le plains, ce réalisateur, parce qu'il a 27 ans et il a déjà tout compris de la vie, de son tragique, et c'est pas une chance pour lui parce qu'il a plus une seule illusion. Le film est superbe, hein, c'est vraiment magnifique. Dès le début, on est dans le noir et on entend comme des sanglots retenus et on s'aperçoit que c'est après la grande bringue blonde là qui a sa crise de tétanie ou de catatonie, et l'autre, sa copine qui est une petite rousse, elle saigne du nez, et les rapports entre ces deux filles sont très très fort. Il y a vraiment quelque chose de très russe là.
C'est, ah oui,
ça.
Oui, mais non, il faut le dire.
100% et, russe, et, ça je dois dire.
Et c'est, moi je n'emploie pas beaucoup ce mot, mais j'ai vu deux fois ce chef-d'œuvre qui est un film.
Tu l'as vu deux fois?
Ouais. Et je l'ai trouvé plus court la deuxième fois. Et je trouve que c'est un film plein comme un œuf, complètement désespéré, d'une beauté foudroyante, d'une complexité rare, avec la peinture de cette société à Leningrad, juste après la guerre. On y est, il y a des scènes hallucinantes, les patients qui sont en train de gémir sur leur lit d'hôpital, le médecin qui est plus ou moins amoureux d'une des deux filles, elle qui veut se faire faire un enfant, le gamin qui a une petite tête de fouine là, qui apparaît, qui lui apporte des aliments, des pommes de terre, parce qu'évidemment, c'est la famine, et qui est en réalité le fils de deux apparatchiks qui vivent dans la campagne neigeuse, dans une maison sublime avec des chiens et des domestiques. Non, le film est vraiment, si, comme on dit, si la foudre peut être lente, là, c'est un éclair au ralenti. Je suis très embêté pour lui, parce que son troisième film ne pourra pas être meilleur que celui-là.
Xavier,
je suis moins enthousiaste, et je ne l'étais déjà pas sur Test Nota, le précédent. C'est quelqu'un qui a un immense talent esthète. Ça, c'est indéniable. Le problème, c'est qu'il le sait, qu'il en a conscience, qu'il passe son temps à surligner.
Qu'il en abuse un peu.
Oh, c'est au-delà d'abuser. Moi, j'avais l'impression qu'il était à côté de moi, en train de me dire, tu as vu très beau plan, là, magnifique. Oh, regarde, j'ai filmé mes pieds parce que c'était impressionnant. Il y a un moment, il ne laisse aucun libre arbitre à ses personnages et encore moins aux spectateurs. Moi, je regarde ça, c'est très beau. Ça, effectivement, je donnerais ma main pour n'importe quel plan. On sent qu'il est l'élève de Sokurov. Il en a gardé les plans séquences, les éclairages, un peu sépia, comme ça, voilà. On sent qu'il a un sens de la perspective, de la ligne
ans,
de fuite.
Hein,
27 ans. Enfin, 27 ans pour copier le maître, c'est pas non plus un exploit. Hein, excuse-moi. Le problème, c'est que la forme, ok, mais le fond... Tu parles d'une désespérance, moi je parle de nihilisme, la manière dont il regarde ses personnages de manière très démurge. Le scénario passe son temps à lancer des embûches pas sympathiques quand même sur le chemin des deux, dont la grande fille. On peut pas vraiment raconter ce qui se passe au début, mais on se tape quand même une agonie de 5-6 minutes qui est filmée, je trouve, à la limite de la complaisance, une fois de plus, pour bien montrer que grand réalisateur, oui, ok, d'accord, grand réalisateur, Coco, mais d'abord, apprends un peu la modestie et arrête de détester ces personnages. Il n'y a aucune humanité, c'est ah, même si, pas non, du désespoir. Non, je suis désolé, Pierre. Non, tu ne vas pas m'interrompre deux fois pour une fois qu'on n'est pas d'accord. Tu as perdu ton tour la précédente fois, donc ma fille, je termine. Je suis désolé, voilà. Alors, effectivement, on a bien compris les symboles, la grande, blonde, la petite rousse, l'autre qui a une tête de navet, là, qui est le puceau pendant tout le film. Mais quand même, un peu de finesse ou un peu de vodka, je ne sais pas ce qu'il lui faut.
Alors, très russe.
Moi, je me sens absolument chez moi.
Chez toi, là.
Bah, je suis
alors,
chez
mais dès
moi,
qu'ils sont russes, il est chez lui. Alors, c'est tout ça ce fait que... beaucoup
non,
des...
Non,
beaucoup
non,
de
non, mais c'est tout ce que j'aime. Alors là, quand tu dis qu'il n'y a pas d'humanité, c'est pétri d'humanité.
Non.
Ce n'est que ça. Oh,
bah, parce que vous parlez tous... pas de ton humanité,
vous parlez tous de la forme. C'est vrai qu'elle est extraordinairement belle. Moi, ce qui m'a absolument soufflé, c'est toujours le poids de la guerre qui est toujours... tellement important pour tous les cinéastes. Un cinéaste d'aujourd'hui qui commence est amené à faire un film sur la guerre, comme exactement il y a 50 ans, un Alexei German pouvait faire 20 jours sans guerre. Et je compare évidemment plutôt à Alexei German, c'est-à-dire le sens du plan-séquence. Le sens, mais tous les personnages, ce médecin qui essaie d'abréger les souffrances de quelqu'un, qui peut se retrouver victime d'un chantage, qui
a...
c'est absolument sublime et c'est désespéré, oui, parce que ces gens vivent une situation qui est assez désespérée, mais comme toujours chez les Russes, il y a une sorte de dénouement ouvert qui rappelle évidemment un certain Tchekhov. C'est exactement la fin du film, c'est à peu près le même monologue que dans Oncle Vagne. Donc c'est on peut
alors
pas
que, si alors que si bien dit si, Oncle Vagne.
Si Tchekhov, oh là 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 là. Si Tchekhov,
on a l'impression que c'est un italien.
Si Tchekhov maintenant et n'a pas d'humanité, alors là je le comprends
non,
pas.
Alors, c'est
absolument
splendide. Stérile,
alors oui, c'est un petit peu lent, d'accord, et c'est pas forcément un joyeux vaudeville. OK.
Mais ce que
mais
Pierre oublie de vous dire,
c'est
que la
c'est
mise
le
en
grand
scène,
film qu'il faut voir cette
semaine.
C'est
un point de vue, enfin, c'est voilà. Un regard et que le regard qu'il a est oblique et jugeant et démure,
jamais et
ça
jamais
du tout
pas un
celui
instant.
Que Tchekhov
t'as rien compris
sur ses personnages dans Oncle Vania. Non, je l'ai vu deux fois aussi pour être bien sûr de n'avoir rien compris. Et effectivement, au bout de deux fois, j'ai perdu cinq heures de ma vie.
Fois, ça m'a, il m'a suffi d'une fois pour comprendre la beauté
mais
de ce film.
En effet, parce qu'effectivement, c'est tellement lourdingue
c'est pas lourd.
Que ouais, effectivement, une fois aurait suffi.
Une grande fille de Kantemir Balagov. Never Grow Old, le western, ou plutôt une manière de western, signé par l'Irlandais Ivan Kavanagh avec John Cusack, Emily Hirsch et la Belge Deborah François. Un film qui se passe en Californie, mais qui a été tourné en partie dans le Connemara et en partie, ça je ne connaissais pas ce coin, au Luxembourg. C'est quand même original pour un film qui se passe aux États-Unis. On est au milieu du 19e siècle. La petite ville de Garlo est peuplée d'immigrés européens sur lesquels règne un pasteur très tyrannique, l'Irlandais Patrick Tett, Emil Hirsch, qui est marié à une Française, Déborah François, fait office de charpentier et de croque-mort, débarque un hors-la-loi joué par Cusack et ses deux comparses qui prennent possession de la ville par la terreur et font revenir au saloon les prostituées et les jeux d'argent. Le pasteur en appelle à Dieu, les balles pleuvent, les cadavres s'empilent et évidemment les affaires du croque-mort prospère jusqu'au jour où sa femme le supplie de quitter la ville avec leurs deux enfants. Tu parlais des western spaghetti, là voilà, un western sauce irlandaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier ?
Ah mais moi je prends et je me resserre. Ouais, je trouve que c'est une excellente surprise. Ça a peu de moyens, ça a constamment une bonne idée de mise en scène, avec une vraie graduation dans la noirceur. Il y a un
noirceur,
personnage...
Hein, c'est 50 nuances de gris. Hein.
Ah ben bah oui, non, ça, on sort pas avec la banane aux lèvres, ça c'est clair. Et avec un vrai personnage, Emil Hirsch, dans ce registre du western qui est souvent dichotomique, même chez Clint Eastwood, on a le bien, le mal, la victime, le salaud. Là, on a un personnage qui, subitement, effectivement, est obligé de travailler pour le salaud qui arrive, John Cusack, qui est impressionnant.
Qui est formidable dans ce
rôle. Formidable dans le film, parce qu'il aurait pu cachetonner, il aurait pu cabotiner, il aurait pu en faire des caisses. Et il a une espèce de noirceur, de sardonisme, mais presque aussi de charisme quand même, de séduction, et face à lui, Émile Hirsch, qui a l'air de se faire bouffer au premier regard, commence à prendre lui aussi de la noirceur, à accepter de travailler pour ce type-là, parce que le nombre de morts que John Cusack va laisser derrière lui, va lui apporter du travail, puisque effectivement, il construit les bières. Et subitement, ce personnage qu'observe son épouse et qui essaie de le ramener à une certaine sérénité, la religion n'est plus un recours, n'est plus un refuge, puisque le pasteur du coin est totalement fou, totalement obsédé. Donc en plus, le film, derrière son hommage au western, quand même très classique, du héros qui va effectivement traverser, finir par se lever contre le salaud de l'histoire, c'est une vraie réflexion sur la fondation de l'Amérique. On est tout le temps dans la boue.
C'est la version crépusculaire de la...
Très crépusculaire, mais en même temps, effectivement, c'est la conquête de l'Ouest, dans la boue, dans la noirceur, dans la violence, dans le droit de la terre, dans l'exécution capitale, dans le rejet de l'autre. Je ne suis pas sûr que l'Amérique, même si elle a beaucoup évolué sur le plan technologique, ait beaucoup évolué sur le plan idéologique depuis ce temps-là.
Eric ?
D'abord, il faut se réjouir de voir un western. Il n'y en a plus jamais. Il n'y en a même pas un par an. Et celui-là est très, très beau, très fort. C'est... Ce personnage de John Cusack,
qui a entre parenthèses été très très mal traité par la presse quand il est sorti.
Ah oui, ah ouais, démonté.
Il y a une semaine, je comprends pas.
Ah non, parce que ça respecte tous les codes du genre. Il y a le bordel, le saloon, le ranch, le méchant, le shérif qui est nul. Et c'est un film très visuel.
Ça
en
manque
plus.
Un peu de chevaux.
Ah oui, mais ils n'arrivent pas à partir. Alors,
attends, mais ça coûtait une fortune, les chevaux, à l'époque. Personne n'en avait 10, comme dans les films de Clint Eastwood. Hein.
Et le côté...
un peu de réalisme.
Qu'ils aient tourné ça en Irlande, c'est absolument...
Et au Luxembourg.
Fabuleux. Au Luxembourg, ça doit être pour blanchir l'argent de la production, j'imagine. Mais non, il y a certaines images évoquent les tableaux de ce peintre qui s'appelle Andrew Wyeth. Là, les maisons, les volets, les rideaux qui battent au vent... Et Déborah François qui arrive là-dedans, mais cet objet est très très curieux. C'est un beau western et John Cusack là avec son chapeau noir, son manteau noir.
Et les deux compars sont pas mal dans l'horreur aussi. Hein.
Ah oui, les deux copains, le muet qui a sa langue séchée dans la poche et le Sicilien qui ricane tout le temps. John Cusack, on dirait, il est inquiétant, on dirait Mitterrand à Lacce en 81. Là, on ne sait pas ce qu'il va faire.
J'ai pas vu d'Ortolan dans ce western.
Non, c'est un film très original et je l'ai vu dans une salle où j'étais seul. Il faut absolument doubler,
mais ça, je pense
au moins doubler
que...
le public de cette salle. C'est dommage, c'est scandaleux.
La presse a été très très injuste avec ce film.
On peut dire
film.
Aussi qu'il y a la belle Anne Coessence qui joue dans le
absolument.
Film.
Pierre.
Alors moi j'aime bien ça. Je fais juste une petite réserve parce que Xavier parlait tout à l'heure de la.
Ton journal était très dur d'ailleurs.
Oui oui très très dur. Oui. Xavier parlait de la prétention de Monsieur Kantemir Balagov. Alors là, je pense tout de même que ce réalisateur n'en est pas dénué de prétention.
J'ai parlé du manque de modestie.
Il y a aussi à chaque plan, regardez comme le plan est intéressant. Alors. Les Russes, t'aimes pas, là, t'aimes. D'accord, t'as le droit. Mais bon, je trouve ça un peu prétentieux et aussi sombre que la grande fille. Bon,
avec une fente verte.
Il y a quelque chose qui est vraiment, en effet, très bien. C'est des moments, par exemple, la scène où le héros se débarrasse d'un traître.
Le charpentier, tu veux dire, le croque-mort.
Qui se débarrasse d'un méchant, c'est filmé vraiment avec un sens du suspense, comme ça, avec une profondeur de champ, on ne sait pas ce qui va arriver. Et puis, ça reprend en effet des thèmes, tu as tout à fait raison, des thèmes classiques du western, c'est-à-dire jusqu'où la lâcheté est-elle permise à un héros, jusqu'où accepter la lâcheté jusqu'à la révolte possible. Et le John Cusack et le méchant, je sais pas si vous avez fait penser à ça, mais ça m'a fait penser un peu à des silhouettes qu'on voyait chez John Huston dans Le Vent de la Plaine. C'est-à-dire ces prédicateurs fous, ces gens un peu sombres.
Qui va aller jusqu'à faire brûler, ça on peut le dire, ce milieu des films, faire brûler le saloon.
Voilà, donc vraiment, c'est un truc un peu prétentieux, mais très, très, très intéressant.
Never Grow Old, donc, de Ivan Cavanna, d'ailleurs, dont c'est le premier film. Il a fait d'autres films auparavant, mais le premier à être distribué.
Oui, c'est le
France.
Cinquième ou le sixième, mais on n'en a pas vu d'autres auparavant.
Allez, quelques comédies françaises dont Je promets d'être sage, le premier film de Ronan Lepage avec Léa Drucker et Pio Marmaille, qui s'ouvre par un beat colossal, assez bien filmé d'ailleurs sur une scène de théâtre transformée en grand guignol hystérique. Et Franck, le metteur en scène, c'est donc Pio Marmaille, il essaye d'intervenir sur scène, il agresse le public et il comprend surtout que son avenir dans ce domaine est compromis. Il décide alors, pour gagner sa vie, de devenir gardien de musée et trouve un poste dans la salle des tombeaux du musée de Dijon, c'est pas très gai. manque de peau, il doit faire équipe avec une surveillante encore plus caractérielle que lui, c'est Sybille, donc Léa Drucker, qui est un peu abonnée maintenant à ce genre de rôle, il faudra qu'elle fasse gaffe, qui n'est pas simplement agressive, elle est aussi kleptomane. Et comme les deux finissent par se trouver l'un et l'autre à leur goût, ils forment une sorte de petite association des malfaiteurs. Donc je le disais, tout cela au milieu des martyrs et des squelettes du musée de Dijon, avec Léa Drucker dans ce rôle et ce style assez psychorigide. Et au contraire, l'explosif Pio Marmaille, 1h32, c'est vraiment presque un court-métrage. Eric.
C'est pas mal, ça se passe à Dijon, mais c'est une moutarde qui n'est pas très forte hein, quand même. C'est un téléfilm gentil.
Ça, tu l'as préparé, ça, oui.
Non, non. Ouais.
Bah... Oh, bah, j'espère pas, non.
Non, non, pas vraiment. Ça m'a demandé 8 jours.
Non. Ça... Ce serait dommage de passer du temps là-dessus.
Il vaut mieux voir ça que de se casser la jambe, mais on se demande un petit peu ce qu'on fait là. Ouais, c'est des... Non, parce que tout est bien, mais rien n'est bien. Il y a du rythme, mais il confond un petit peu le rythme avec la maladie de Parkinson. C'est...
En gros, c'est un film que tu as aimé, quoi.
J'ai pas détesté. Mais on sent qu'il voudrait tellement faire une comédie à l'américaine avec Cary Grant ou quelqu'un comme ça. Mais Pio Marmaille surjoue tout le temps. Tout est un peu surjoué là-dedans. Ça m'a rappelé ce film de Salvadori, le dernier, là, En Liberté, où on sent que là, attention.
Il y avait d'ailleurs Pio Marmaille aussi.
Mais il faut qu'il fasse gaffe, Pio Marmaille, parce qu'il est un peu trop survolté. Et Léa Drucker, tu as raison aussi de dire que dans ce rôle de faux-folle, kleptomane...
Non, mais c'est psychorigide, qu'elle fait de manière un peu...
Bon, c'est original maintenant. De montrer les coulisses d'un musée de province, mais est-ce que c'est...
Tu veux dire d'un musée de région?
Si tu veux.
Xavier.
On aurait envie d'aimer parce qu'effectivement, c'est un peu l'héritier de Salvadori. On retrouve le ton de Comme elle respire, des premières comédies. C'est-à-dire à la fois le genre, tu l'as dit, un truc d'arnaqueur, mais en même temps, c'est très vite bouclé, très vite bâclé, très vite passé à autre chose. Et puis, il y a un petit côté social, effectivement, les coulisses du musée, de province, de région.
On voit pas beaucoup les coulisses du musée.
Il y a des conseils qui sont donnés. Comment ne pas s'endormir, comment ne pas se casser le dos.
Le massage cardiaque sur Staying Alive, c'est marrant.
Mais Salvadori, avec toujours une idée directrice très forte et très marquée autour duquel il pouvait s'offrir des digressions, là, le problème, c'est que c'est chapitre après chapitre et qu'à un moment, on a l'impression que le scénario va un peu n'importe où sans vraiment construire de ligne directrice. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une satire pas très fine du théâtre, on va dire alternatif. Au début, c'est un petit peu
mauvais. T'es dans l'alternatif subventionné. Hein.
Subventionné, oui. Mais bon, remarque, en même temps, j'ai vu le spectacle de Vincent Mackay. Je me dis qu'effectivement, la satire n'est pas loin de la réalité. Après, on a effectivement la petite vie un peu médiocre, un peu stérile, comme ça, des gardiens de musée. Puis ensuite, on a cette fille qui, elle est plus que kleptomane. Elle est voleuse, elle revend, elle arnaque.
Et puis, elle a une maladie un peu...
Voilà, mais sauf que... Alors, moi, je suis pas d'accord avec vous. Léa Drucker, qu'on a vu quand même il y a pas longtemps dans Roxane, l'horrible comédie française avec des poules, où elle était pas bonne, malheureusement, parce que pas dirigée. Là, je trouve qu'en termes de tonalité, elle a une manière d'être inquiétante dès qu'elle rentre dans le cadre. Elle retient la phrase comme ça. On a l'impression qu'elle va pourfendre le personnage uniquement à travers les mots et à travers. Elle l'humilie comme ça.
Les mots qu'elle cherche, d'ailleurs, parce
qu'elle cherche.
Elle a une sorte de, je sais pas si c'est un
agacé ou... Moi, je la trouve absolument saisissante parce qu'elle construit, en revanche, ce que ne fait pas le film, sur la durée, un personnage qui est constamment insaisissable, constamment mystérieux et grâce à elle, constamment séducteur.
Pierre.
La comédie à la française est dans un état tellement effroyable qu'on a vraiment envie d'être très gentil avec ça. On va parler tout à l'heure d'un film qui me semble un peu meilleur, mais celui-là est vraiment gentil, joli. Ça évoque un peu Philippe de Broca, Salvadori. Non, mais voilà, dans l'idée, la rencontre, comme ça. Le petit problème, peut-être, c'est un problème de scénario. C'est-à-dire que ça marche pas toujours. Il y a des à-coups. On commence à un moment donné à se poser des questions. Mais pourquoi agit-elle ainsi? Dans une comédie, quand vous êtes pris par le rythme, ou bien vous vous en foutez, vous posez pas de questions, ou vous commencez à vous en poser, c'est mauvais signe. Mais c'est joli, c'est rythmé. Léa Drucker, moi, je trouve, tient son rôle. Lui, dans le genre charmeur, et il passe. C'est un joli film qu'on peut voir. Là, si on le voit pas, on le rattrapera un peu plus tard.
Le musée est sinistre, hein. Ce qu'on voit du musée.
Mais le film ne l'est pas. Le film
non,
ne l'est pas.
Non, mais.
Mais l'autre, je préfère l'autre, enfin.
On va en parler tout de suite. Je promets d'être sage. C'est donc de Ronan Lepage. L'autre, c'est donc Perdrix. On dit Perdrix ou Perdrix?
Perdrix.
Perdri.
Avec AX, c'est pour ça. Non, mais on a des auditeurs quand même. Ah ben moi, le premier Perdri. Film d'Erwan Leduc avec Swan Harlow, Maude Wheeler et Fanny Ardant et Swan Harlow, l'inoubliable petit paysan. C'est donc Pierre Perdri, un capitaine de gendarmerie qui tombe sous le charme d'une automobiliste, c'est Maude Wheeler. Elle s'est fait voler sa voiture par un groupe que j'aime beaucoup puisque ce sont des nudistes révolutionnaires sur une route des Vosges et elle vient porter plainte. Il l'invite dans sa famille, c'est-à-dire chez sa mère, qui est une veuve jouée par Fanny Ardant, qui est un peu ma consoeur puisqu'elle anime une émission de nuit de radio depuis son garage et qu'elle couche avec qui veut, donc c'est déjà ça. Et puis son frère, c'est Nicolas Maury, qui est un fou de lombric comme Eric, et la nièce, comme Pierre, adepte du ping-pong. C'est à la fois totalement foudingue, assez touchant, et oui. Pour toi, donc, c'est au-dessus du Ronan Lepage.
C'est un tout petit peu au-dessus, parce qu'il me semble, pour moi en tout cas, il y a une originalité dans le scénario, dans le climat qu'il réussit à créer, et dans le personnage, alors très très classique, là aussi, on songe à certaines comédies. Moi, par exemple, il y a un cinéaste auquel je rends toujours hommage dès que je le peux, c'est Michel Deville. Mais on songe à Michel Deville pour la préciosité et la précision de la mise en scène. Il aimait faire des comédies comme ça, comme L'ours et la poupée, par exemple. Et il y a un personnage extrêmement classique de comédie que joue magnifiquement, je trouve, Maude Wheeler, c'est-à-dire celle qui arrive, l'étrangeté dans une situation banale et donnée, et qui fout le bordel, en quelque sorte, et qui arrive par sa fantaisie à réveiller tout le monde et à emporter tout le monde. Je trouve que c'est un thème très classique, mais justement qu'il arrive à rendre assez burlesque avec l'apparition de ces nudistes.
Nudistes révolutionnaires.
Révolutionnaires, avec cette mère qui, en effet, à qui même les enfants téléphonent, parce qu'il faut bien qu'il y ait des auditeurs, enfin, parce qu'elle n'en a pas, bien sûr, dans ses émissions de confession. Je trouve qu'il y a un vrai petit charme. C'est pas un immense film, mais il y a vraiment l'amorce d'un réalisateur.
Eric.
Oui, il y a quelque chose là-dedans. Puis ça donne envie de laisser sa voiture sur une aire d'autoroute avec les clés dessus parce que une fille à poil va venir surgir de la forêt. Alors c'est un appât excellent. Non, le film
toi,
fait penser.
Toi qui ne conduis pas, entre parenthèses.
Si, mais bien sûr que si, je conduis. Mais pas tout nu. Et non, ça fait aussi un peu penser le début à certains films de Blié, là, comme Calmos, là, ce climat un peu bizarre. Parce que tout est bizarre dans le film. Il n'y a pas un personnage normal. La mère est folle, le type s'intéresse aux vers de terre, sa fille fait la gueule sans arrêt, il y a un tank qui se balade dans le village sans arrêt.
Oui,
parce qu'ils vont reconstituer une bataille de la Seconde Guerre mondiale, alors ça anime tout le monde. Ça se passe dans une gendarmerie, mais alors aucune gendarmerie ne doit être comme ça dans la vie. Mais le type a une originalité et ça aurait pu être un peu plus bouclé, mais surtout, il y a ce Maude Wheeler, tu dis, qui est pour moi une vraie surprise, une révélation. Elle a le charme d'une Catherine Deneuve jeune, elle a la pétulance.
Irrésistible.
Elle écrase un peu tout sur son passage, et je lui souhaite une grande carrière, et je la demande en mariage.
Et je crois que le réalisateur, donc encore une fois, dont c'est le premier film, est journaliste de sport.
Il y a une réplique très marrante, c'est « Vous avez déjà été amoureux ?» Non, Thérèse, plutôt crevé. Et rien que pour ça, ça vaut le coup.
Xavier.
Moi, j'ai un peu pensé au film d'Anthony Cordier, Gaspard va au mariage, qu'on avait vu il y a deux ans, qui avait un sens comme ça de l'insolite, de l'irsu, de l'inattendu. Sauf que c'est pas Anthony Cordier. C'est-à-dire, pour l'instant, on a un premier film, prometteur, c'est indéniable, mais qui semble avoir la terreur, comme les écrivains, de la page blanche. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il se passe quelque chose à l'écran, soit un dialogue, soit une situation, soit quelqu'un qui intervient dans le cadre, soit une cocasserie. Et il y a un moment, on a envie de lui dire, la mise en scène, c'est pas simplement l'immédiateté de la chose, c'est une construction. Tu parlais de Michel Deville. Michel Deville avait ce sens très exponentiel de la mise en scène qu'il retenait au début et qu'il laissait complètement exploser. Philippe de Broca, que tu as cité également.
Tu remarques qu'il n'a pas cité Mankiewicz.
Non, pas encore. Mais ça, dans le registre, un peu plus. Ah,
c'est
encore
pas encore, vraiment. Ouais. Non, pas vraiment.
Des pieds pour les abeilles, par exemple. Mais voilà, c'est un film qui veut donner tout le temps l'impression de savoir-faire, de vouloir savoir-faire. Il y a un côté, regardez mon book, regardez, je peux faire de la mélancolie, je peux faire de l'humour, je peux faire de l'absurde, je peux faire du cocasse. La reconstitution de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi ? Ou pourquoi pas ?
Pourquoi
mais
pas,
sauf qu'il n'en fait pas grand-chose. Les nudistes, pourquoi ? Et pourquoi pas, sauf qu'il n'en fait pas grand-chose. Mais il a un acteur génial, disons-le quand même, Swan Harlow, qu'il utilise magnifiquement, oui, parce que c'est un corps particulier, oui, oui, celui de Swan,
très bien, oui.
Et il le met très bien en scène. Il a un sens du cadre, il a un sens de l'écriture, alors,
Lui, il n'arrête pas de faire des bons choix et de monter.
Ah, hein. Mais tant mieux, ça fait 10 ans qu'on le défend.
Oui,
mais
c'est pas facile, hein, en France.
Donc voilà, on a un premier film prometteur, il va falloir que le réalisateur apprenne un tout petit peu plus à graduer ses effets, à les retenir et à les monter en puissance. Mais c'est vrai qu'il est pétri d'idées et talents déjà.
Perdri, le premier film d'Erwan. Le Duc, un mot rapide sur Nuit magique au pluriel de l'italien Paolo Virzi avec Mauro Lamantia, Giovanni Toscano et René Vetere. Le début du film, qui est long quand même de 2h05, est plutôt sympatoche, comme dirait Pierrot, qui ne l'a pas vu le film.
Mais non,
crois.
Je suis désolé.
Quelle chance.
On voit débarquer à Rome dans les années 90 les trois finalistes, une fille et deux garçons, d'un concours de scénaristes pour la cérémonie de la remise du prix, l'occasion pour eux de découvrir le petit monde, assez drôle d'ailleurs et très 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 amer, des vieux cinéastes italiens. Et voici que le soir de la finale du Mondial 90 opposant l'Italie à l'Argentine, vous savez qui a gagné bien sûr, un producteur est retrouvé mort dans le Tibre et nos jeunes héros sont embarqués au commissariat et font figure de suspects. Et puis très vite, je trouve que ce qui pouvait avoir du charme au début s'évapore jusqu'au tournage d'une scène de La Voce della Luna à faire sortir Fellini de sa tombe. Xavier.
Ben, j'étais comme toi. Alors, je partais un petit peu avec les semelles lourdes parce que.
Le début a du charme.
Le précédent film, c'était Foldel avec Valeria Bruni Tedeschi, qui était déjà quand même très irritant. Mmh. Mais j'étais comme toi à la lecture du synopsis. Je me dis, ah, un polar comme ça, dans le milieu du cinéma italien, avec ce crépuscule qui est en train de le traverser, la fin d'un monde, ces gens qui se rencontrent, je vais le prendre. Et puis alors, le scénario est construit n'importe comment à coups de flashbacks qui vont dans tous les sens. Et ça hurle tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène
ça
à moins de 120 décibels. C'est-à-dire que ces gens ne peuvent pas parler, même quand ils sont côte à côte, sans hurler à l'oreille de l'autre. Je ne sais pas comment ils font, ils vendent peut-être des appareils auditifs en Italie. Et son portrait du cinéma italien et romain, les producteurs, tout ça, avec les gens qui n'ont pas réussi, les amers, les aigris, est tellement caricatural, manque tellement de subtilité. Et tu as effectivement cité la scène sur le tournage à La Voce della Luna, que ça n'a aucun intérêt. Le polar ne l'intéresse plus au bout de 5 minutes. Et ce qui devait être un portrait un peu croqué comme ça, sur le vif, avec beaucoup d'amour, devient une espèce de satire à deux balles, sans aucun intérêt.
Sans être drôle, parce que montrer
jamais.
Montrer l'amertume de ces vieux cinéastes, ça pourrait être drôle. Et là, c'est fait de manière très, très littérale. Bah,
surtout au pays, quand même, des cinéastes italiens de cette époque-là. Enfin, voilà, au pays Scola, c'est quand même un petit peu une insulte d'arriver à faire ça de façon triste et de façon aussi sommaire et aussi bête.
Eric.
Bah, la chose la plus intéressante, c'est qu'on a les adresses de tous les bons restaurants où vont les cinéastes. Là, il y a Checo, Quincy et Gabrielli, Gigetto, j'ai vérifié sur Internet.
Tu crois que c'est vrai?
Oui,
c'est vrai.
Ils existent. Ah, oui. Alors ça, c'est très bien si vous allez à Rome, vous pourrez vous restaurer. Sinon, le film est une espèce de bahut à l'ancienne, complètement démodé. Presque revendiqué, Xavier a raison, les flashbacks, le scénario, c'est ni fait ni à faire, on a vu ça 1000 fois. Et je trouve que les acteurs sont pas très bons, en plus, les trois jeunes.
Jeunes.
Ouais, pas terrible, là, c'est lourdingue, c'est pas désagréable, mais c'est dans un pays où on a vu nos meilleures années, nous nous sommes tant aimés. Faire ça, pourquoi ça se passe en 90, on ne sait pas exactement, parce que c'est la fin du cinéma italien, sans doute. Il y a la Coupe du Monde qui est diffusée sur tous les écrans de télévision. C'est un film un peu vain et assez paresseux. Parce
voilà,
que
on peut s'en passer, disons-le franchement. Ces nuits magiques, qui sont pas très très magiques, de l'italien Paolo Virzi. Le seul film que je n'ai pas vu cette semaine, c'est Fast and Furious de Hobbs and Shaw de David Leitch, 2h16. Vous, en revanche, vous avez fait votre métier. Vous l'avez tous vu? Non, pas Eric?
Oui, oui.
Alors, Pierre.
On est un peu paumé si on n'a pas suivi tout le truc, hein, parce que ils
non,
ont...
non, Pierre,
bah,
non.
Bah, moi, si.
Non.
Bah, moi, excuse-moi, je suis pas aussi.
Il n'a pas le perdu.
La bêtise du scénario, on n'est pas perdu, non.
Non, non, mais on est perdu parce que y a une sœur, un méchant qui est devenu gentil. Alors, j'ai appris en cliquant un peu sur que les fans de la série ne comprennent pas pourquoi le méchant est devenu gentil. Il demande vengeance pour la sœur qui a disparu dans un épisode précédent. Enfin,
là,
tout
là,
ça,
c'est toi qui est incompréhensible.
Oui,
hein.
Oui. Mais voilà, j'essaie de refléter ma perplexité quelquefois en voyant des films où on a raté 2 ou 3 épisodes. Alors, cela dit, c'est quand même très marrant parce que ce qu'on apprend aussi en cliquant un petit peu, c'est hors, hors film, en quelque sorte, c'est que dans le contrat des deux stars, il est précisé, mais alors vraiment à la seconde près, que si l'un reçoit un coup de poing, l'autre doit en recevoir un, mais pas plus de 5 minutes après. Et le générique est absolument fait sur ça. C'est-à-dire qu'on voit les deux stars avec un split screen, c'est-à-dire l'écran est partagé, et ils se lèvent absolument en même temps, ils disent le même texte en même temps, ils en ont fait un gag. Mais je veux dire, voilà, le film est fait pour servir la soupe à deux comédiens qu'on peut aimer ou pas, et puis qui...
Mais t'as aimé ou pas? Je voudrais juste savoir, t'as aimé ou pas?
Oh ben, alors je l'ai pas vu en entier parce que j'en avais marre,
mais...
Ah ben oui, au bout d'une heure et demie, on comprend à peu près metteur en scène veut en venir tout de même. Ouais. Ça dure 2h12, je crois.
2h16.
16.
Et quand tu penses à ce qu'on aurait fait Mankiewicz avec un tel sujet...
Alors là, je ne te le fais pas dire.
Xavier,
c'est tellement crétin que ça en devient goulayant et savoureux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Fast and Furious. Je trouve que c'est une franchise totalement...
Oui,
je trouve que c'est...
Mais tu comprends tout, toi.
C'est crypto-gay à mort. C'est-à-dire qu'ils ont
crypto-gay.
Ils ont beau mettre des nanas avec des grosses poitrines plantureuses au milieu. Tous les mecs sont en train de se mater tout en astiquant comme ça leur levier de vitesse. Et prenez une chambre, les mecs. Alors là, ils ont dégagé quand même toutes les filles. Il n'y a plus que la sœur qui, effectivement, s'est injectée un virus, machin, trubulule, pour éviter que le méchant tombe dessus. Mais alors, elle a 72 heures avant d'exploser
ça,
et de répandre un truc dans le monde entier qui va tous nous détruire. Rassurez-vous, on est là, donc vous connaissez la fin. Voilà.
J'ai rien
mais
compris,
bon.
Hein.
Ah, mais si, je viens de l'expliquer. Moi, le problème, il ne faut pas mettre un méchant plus charismatique, plus beau et plus sexy que les deux héros. C'est-à-dire que moi, ça déplace quand même mon empathie. C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais pour les deux cons blancs là qui sont en train de poursuivre le superbe Idriss Elba, quand même, qui est moulé dans une tenue comme ça, cuir latex et tout ça, qui est une espèce d'invitation. Avec Hélène Mirren qui joue la mère de Jason Statham au milieu de tout ça.
Alors, voilà. Elle va apparaître dans l'épisode 9, j'ai appris ça.
Et elle apparaît à la fin du générique que tu n'as pas vu. Sauf que il y a quand même une poursuite à la fin que tu n'as pas vu puisque tu es parti, qui est quand même géniale, mais vraiment géniale, où il y a 8 voitures aimantées les unes aux autres qui essayent, grâce à Dwayne Johnson qui tient la chaîne, de retenir un hélicoptère conduit par Idriss Elba. Alors moi, mon cœur balance vers Idriss Elba. Non, ne le tuez pas. Il y a un doute, il pourrait revenir et tout ça. Mais alors, les 8 bagnoles aimantées qui tiennent l'hélicoptère comme ça avec la chaîne...
Tu y vois une métaphore, une...
Oh bah oui, très clairement quand même. Une grande partouze.
J'y retourne, Xavier, j'y retourne.
Tout le monde s'enfile.
Enfin,
mais je trouve ça tellement n'importe quoi qu'au bout d'un moment, ça m'a ravi dans un registre débile. Voilà.
Fast and Furious de David Leitch. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On va commencer avec Pierrot.
Alors, la découverte d'un cinéaste italien qu'on connaît mal, qui s'appelle Luciano Emer. Donc, il y a deux choses. En salle, vient de ressortir un film qui s'appelle Paris est toujours Paris, 1951, sur une équipe de foot qui vient à Paris. Et c'est un joli film. Et surtout, je recommande un DVD qui est sorti il y a quelques mois, d'un film formidable qui s'appelle La fille dans la vitrine, toujours de Luciano Emer, 61, avec Lino Ventura et Marina Vladi, scénario de Pierre Paolo Pasolini, sur des mineurs qui vont en vadrouille à Amsterdam. C'est un très, très, très joli
scénario
film.
Scénario de Pasolini.
Oui. Donc vraiment, La fille dans la vitrine est formidable. Et l'autre, on peut le voir aussi. Voilà.
On peut le voir à peu près partout. C'est...
On peut le voir. Oui, ça va sortir.
Parce que j'ai un...
Et le DVD, on peut le voir, évidemment,
bien sûr,
par définition. Voilà.
Le conseil d'Éric.
L'Intouchable, un documentaire d'Ursula McFarlane sur Harvey Weinstein qui est assez glaçant. Quand on voit le silence qui a duré des années et des années, tous les gens qui se mettent à parler, c'en est presque gênant même d'ailleurs, parce que à mon avis, ce Weinstein est un peu l'arbre qui cache toute la forêt, mais on voit la façon dont ce type a détruit des vies, comment son physique l'a obligé à devenir riche et célèbre et à abuser de son pouvoir. Et le film est glaçant. Et on dit que les marins ont une femme dans chaque port, et en sortant de là, on se demande s'il n'y a pas un port dans chaque homme.
Le conseil de Xavier.
Alors moi, c'est un premier film, un long métrage d'animation japonais. Vous savez que j'adore ça. Mais celui-ci vraiment m'a réjoui. Ça s'appelle Le mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui habite un petit village au Japon. Et subitement, un jour, apparaissent des pingouins. d'où le mystère des pingouins, un peu partout, spontanément, des pingouins sur sa route, et il décide de mener l'enquête. C'est un petit garçon un peu solitaire, qui est à la fois, qui tient un peu de Young Sheldon, le personnage de Big Bang Theory, et puis de Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il adore décrypter les mystères et tout ça, et il va essayer de comprendre pourquoi ces pingouins arrivent. Et c'est comme toujours dans le cinéma d'animation japonais, le fantastique, c'est une manière de parler de l'adolescence, de ses craintes, de ses terreurs, de ses phobies, de ses... l'éveil des sens, parce que il va être secondé par une jeune fille qui a une poitrine qui visiblement l'intéresse beaucoup. Donc c'est à la fois très drôle, très surprenant, constamment inventif et assez beau sur le plan de la... Alors, on n'est pas au niveau de Miyazaki, mais il y a vraiment déjà un souffle dans la mise en scène et dans la réalisation qui mérite le déplacement. Le mystère des pingouins, rien que le titre déjà.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Xavier Le Herpeur, Éric Neuhoff, Pierre Murat, et on embrasse, en lui souhaitant un prompt rétablissement, et on embrasse Charlotte Lipinska qui n'a pas pu être là ce soir. Comme chaque semaine, l'émission était présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir, à la technique, il y avait Jean-Michel Bernaud, Cédric Chatelus, Sébastien Royer, Mathieu Tourin, que je remercie, ainsi que le réalisateur de cette émission, Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 29 août. Ce sera au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Aspail à Paris, dans le 6e, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. On parle dans une semaine de la rentrée littéraire à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.